Radio Kapi.
Oh, Kapi.
La RDC met en ligne un nouveau passeport, mais attention, le passeport actuel reste en cours jusqu'à expiration, tandis que le processus d'acquisition du nouveau passeport biométrique commence dès le jeudi 5 juin prochain, selon le ministère des Affaires étrangères. Et puis ce triste bilan en provenance de la chefferie de Bouito au Nord Kivu, un peu plus de 35 civils ont été tués ces 6 derniers jours au cours des affrontements opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans cette entité du territoire de Rutshuru. Nous en parlons dans ce journal. 13 de 26 provinces de la RDC sont touchées par le choléra. Didier Bompangé, directeur adjoint de l'Institut One Health pour l'Afrique, préconise le renforcement des financements de la politique de lutte contre cette épidémie. Il est l'invité de notre journal. Encore une fois, bonjour à la présentation, Lievin Bouinga. La RDC met en ligne de nouveaux passeports. Le ministère des Affaires étrangères annonce en même temps l'arrêt dès hier mardi 27 mai de la mise en vente des formulaires pour l'obtention des passeports actuels et le début du processus d'acquisition du nouveau passeport biométrique dès le jeudi 5 juin de cette année. Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, affirme dans un communiqué publié le 27 mai dernier que la décision du lancement de ce nouveau passeport est une anticipation en réponse à l'évolution des normes internationales. L'initiative vise aussi la sécurité des documents de voyage à l'étranger et la simplification de l'acquisition du passeport. D'autres précisions avec Billy Ivan Lutumba.
Première assurance du ministère des Affaires étrangères, tous les requérants dont la demande de passeport est encore en cours seront automatiquement pris en charge afin de bénéficier du nouveau passeport biométrique. Autre assurance, les détenteurs du passeport actuel pourront continuer à l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration. Il coexistera avec le nouveau jusqu'en 2030. Combien coûte le nouveau passeport biométrique congolais? $75, fixe le ministère dans son communiqué. Ce montant est payable en espèces auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur les sites officiels de demande de passeport. Quant au processus d'obtention, il se fera en ligne sur son site officiel www.passeport.gouv.cd dès la semaine prochaine. Ce sera le 5 juin 2025. Des nouveaux centres de capture sont déjà mis en place à Kinshasa et en cours d'installation dans les chefs-lieux de province, souligne le ministère. Ce qu'il y a de nouveau dans ce passeport, le ministère indique qu'il comporte maintenant 38 pages au lieu des 32 comme dans l'ancien. Il contient des éléments des protections contre la fraude conformément aux exigences de l'OACI. C'est notamment une micropuce Radio Frequency Identification sans contact, une page des données en polycarbonate offrant une meilleure résistance à la falsification et des hologrammes ainsi que des filigranes pour combattre toute contrefaçon.
Autre nouvelle avec ce triste bilan en provenance de la chefferie de Bouito au Nord Kivu. Un peu plus de 35 civils ont été tués ces 6 derniers jours au cours des affrontements opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux dans cette entité du territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, jusque hier mardi, les combats s'intensifient encore dans les villages de Marangara et Rukarara, groupement de Tongo. Certaines sources parlent d'une opération de traque de présumés FDLR à la lisière du parc national des Virunga et qui occasionne plusieurs victimes parmi les civils. Détail avec Ronly Ntimbonera.
Au moins 29 corps des civils, victimes collatérales de ces affrontements, ont été mis en terre mardi dans le village des Kirumba, Lukarara, Rukano et Kagando, entre autres, indiquent les sources locales. Ces sources parlent aussi d'au moins 6 autres corps enterrés à Runzenze. Tous ces villages de groupement Tongo et Bambo sont situés dans la lisière du parc national de Virunga. Quelques dizaines de maisons d'habitation et maisonnées des campagnes appartenant des villageois ont aussi été incendiées dans ces villages où des chèvres et très bien, auraient été pillés ainsi que de jeunes pris en otage par le rebelle du M23 pour transporter ses biens. Nos sources parlent aussi d'une dizaine de personnes blessées et qui ont été conduites à l'hôpital de Bambo. Si un calme précaire est reporté dans la zone ce mercredi, après des violents combats toute la journée d'hier mardi dans le village Marangara et Rukarara, groupement des Tongo, la situation reste tendue dans la région. Pour nos sources, depuis jeudi 22 mai, les éléments AFC M23 mènent une l'opération des traques de présumés rebelles rwandais FDLR dans plusieurs villages des groupements de Bambo, Tongo, Bukombo et Mutanda dans la chefferie de Bwito, en particulier dans la zone du parc national de Virunga. Plusieurs civils, parmi lesquels une dizaine de femmes et des enfants, sont tombés victimes collatérales lors de ces affrontements, déplorent nos sources.
Retour à Kinshasa avec la clôture hier dans la soirée de la mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire francophone, conduite par le Camerounais Hilarion Etong. Ces élus francophones ont échangé pendant plus d'une heure avec le président de la République sur les voies de sortie de la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Bien avant, la délégation de l'APF a conféré avec le vice-premier ministre de l'Intérieur après avoir échangé avec la délégation du ministère des Affaires étrangères sur la problématique de l'occupation de l'Est du pays par l'AFC M23 et les possibilités de restauration de la paix. Michel Kifindangoy.
Au cours des échanges avec la mission des bons offices de l'APEF, la délégation du ministère des Affaires étrangères peint un tableau sombre de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Rappelant qu'il n'y a pas de développement sans paix, le secrétaire général de la coopération internationale plaide pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Célestin Kapongo.
La RDC est victime de l'agression, son espace territorial est violé par un pays voisin. Et alors, c'est cette vérité qu'ils voulaient entendre et qui peuvent remonter à d'autres instances. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a la résolution 2773, dont nous avons demandé à l'APEF d'appuyer sur l'accélérateur pour sa mise en œuvre.
Représentant la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre de l'Intérieur fait un aperçu général de cette crise. Jacquemain Chabani dénonce l'aggravation de l'insécurité dans l'est du pays avec l'occupation de Goma et Bukavu, faisant une multitude de morts et des milliers de déplacés. La délégation de l'APEF a clôturé sa mission tard dans la nuit de ce mardi par des échanges avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avant de s'envoler pour Kigali au Rwanda.
C'est parti depuis ce mercredi à Isiro avec la première édition du cadre permanent de concertation de coopération interprovinciale des provinces issues de l'espace Grand Oriental. Pendant 2 jours, soit de ce mercredi à demain jeudi, les gouverneurs de 4 provinces vont passer en revue dans ce chef-lieu de la province du Haut-Ouélé certains problèmes communs qui bloquent le développement de leurs entités respectives et d'en proposer des pistes de solutions. Les explications avec Jacques Mokonkole.
Hormis la province de l'Ituri représentée par son vice-gouverneur, les 3 autres gouverneurs sont présents à ce premier rendez-vous quadripartite. Il s'agit de Paulette Ndongolia pour la Tchopo, Mike David Mokeni pour le Bas-Ouélé et bien entendu Jean Bakomito Gambou, hôte de ses assises. Les présidents des assemblées provinciales et certains cadres politico-administratifs de leurs entités respectives y participent également. Le cadre permanent des concertations a pour objectif d'identifier les problèmes communs qui plombent le décollage de l'espace Grand Oriental. Les participants ne vont pas se limiter qu'au seul constat, mais ils devront également proposer des solutions idoines. Autre mission lui conférée par ses initiateurs, renforcer les liens entre les filles et fils de la Grande Orientale. Parmi les problèmes à aborder figurent notamment ceux relatifs à l'interconnectivité des provinces, à la sécurité et aux tracasseries dans les postes de contrôle. Pour le ministre provincial de la Communication et porte-parole du gouvernement dans les Haut-Ouélé, Emmanuel Arama, ce cadre de concertation aura un impact certain sur le développement de l'espace Grand Oriental.
À travers ces assises, nous allons ressortir un espace plus uni avec des problèmes, avec des pistes de solutions constatuelles.
Le cadre de concertation va se tenir de manière rotative tous les 3 mois. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le gouvernement congolais compte promouvoir le secteur agricole. En tout cas, il a fait savoir son engagement de faire du secteur agricole le levier de la croissance économique. C'est le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui l'a annoncé lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias. Il assure en même temps que le secteur agricole va aider le pays à résoudre la question de l'insuffisance alimentaire et du chômage à travers le pays. Les propos de Julien Paluku sont recueillis ici par Blaise Chindani Kambala.
Lorsqu'on examine la manière dont les secteurs miniers participaient au développement de la RDC, on se rend compte pratiquement que la RDC n'a pas tiré profit de ce secteur minier. Voilà pourquoi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous a demandé de diversifier notre économie, notamment en allant vers le secteur agricole. Je vais vous donner quelques comparaisons. Aujourd'hui, La tonne de cuivre coûte 9 534 $, ça c'est la mercuriale de cette semaine. La tonne de cobalt nous coûte 33 000 $ américains. Mais de l'autre côté, lorsque vous prenez la tonne du cacao, elle vous coûte 10 310 $, la tonne du cacao. Donc comparé à la tonne du cuivre, eh bien, la tonne du cacao nous donne plus d'avantages aujourd'hui parce qu'elle coûte 10 000 $ alors que celle du cuivre nous coûte 9 000 $.
Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a plaidé pour le retour de la paix pour la réussite de ce projet agricole du gouvernement congolais. Il a par ailleurs salué le deal minier entre Kinshasa et Washington. Des réactions à la suite à la visite de la route Kananga-Kalambambouji par la première ministre, la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC Kasaï Central, salue cette visite d'inspection de Judith Souminoua. D'après son vice-président provincial, les opérations économiques tiennent à la promesse de la première ministre pour l'accélération des travaux pendant la saison sèche. Mais pour que le délai de livraison de cette route d'espoir pour le centre kassaïen soit respecté, il propose que les 4 entreprises sélectionnées travaillent au même moment. Jean-Pierre Kamwabo sur des propos recueillis par François Kadima.
Il y a beaucoup de chantiers sur les réseaux pour effectivement respecter les délais parce que c'était prévu qu'il y ait 4 entreprises qui devaient s'installer tout au long de ces réseaux, une entreprise spécialisée rien qu'en pont. Donc avec autant d'entreprises, parce qu'aujourd'hui il y a déjà 2 entreprises, nous saluons ça, mais nous voulons qu'il y ait les 3 entreprises qui étaient prévues sur les contrats et sur la promesse du chef de l'État, bien sûr avec la 4e qui devait accompagner le projet avec les ponts. Je crois qu'avec les 3 entreprises, autant de chantiers, je crois que les travaux vont s'accélérer et puis la route peut nous être offerte dans un délai raisonnable. Les choses commencent à bouger, mais nous, on ne va pas dormir parce que vous savez que nous, on a dit à la Première ministre que ces entreprises ont eu une habitude. Quand le chef d'État était de passage ici, on a vu beaucoup de travaux. À son départ, il y a eu ralentissement. Nous ne voulons pas qu'à son départ, qu'on puisse aussi encore constater l'arrêt des travaux ou bien ralentissement.
Les populations de Yedi et Galaï reprennent le sourire avec la reprise normale des activités socio-économiques et sociales dans leur milieu. À la base, la réhabilitation de la route Mongualou Galaï-Yedi en Ituri par le gouvernement provincial. La remise en état de cet axe routier a permis d'intensifier le trafic sur cette voie d'intérêt économique capital, affirment certains habitants. Notez qu'il y a encore quelques mois, cette région était un champ de bataille entre les différents groupes armés et les FRDC, ce qui rendait cet axe routier impraticable. Et les deux entités Yedi et Galaï sont situées à cheval entre les territoires de Djougou et de Mambasa. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est depuis le mois de février 2025 que l'entreprise sous les palmiers a déployé des engins pour ouvrir cette voie longtemps envahie par la brousse. Pas un seul véhicule ni moto n'est fréquenté cet axe qui pourtant ravitaille la zone en produits de première nécessité. Aujourd'hui, les marchés sont de nouveau alimentés, les maisons de commerce réapprovisionnées. Un habitant du centre de négoce de Galaï témoigne.
Nous avons droit de nous réjouir car il n'y a pas longtemps, un kilo du riz s'est négocié à 15 000 francs. Congolais. Même chose pour une bouteille d'huile qui coûtait le même prix. Mais aujourd'hui, toutes ces denrées reviennent à 10 000 francs.
Actuellement, nous mettons 1h30 au lieu de 2 ou 3 heures pour atteindre Mongualou où nous nous ravitaillons en divers produits. Se réjouit cet opérateur économique de Kessi, un village voisin de Yedi en territoire de Mambasa. Il se souvient du calvaire que lui et ses collègues ont subi pour parcourir ce tronçon aujourd'hui praticable.
Actuellement, il n'y a pas de problème. On peut même se permettre de faire un aller-retour jusqu'à Mongualou. Il y arrivait des fois où nous n'avions même pas du tout envie de voyager.
Le déploiement des militaires des FARDC dans cette zone a également contribué au retour massif des populations ainsi qu'à la reprise des activités scolaires suspendues durant plusieurs mois à cause de la sécurité. Bounia, Jean-Claude Loki. Il est Radio Okapi.
De l'Est, passons à l'Ouest du pays. Les femmes du Kwilu réunies au sein de l'Association des femmes leaders du Kwilu plaident auprès du gouverneur de province pour la représentativité de la femme à au moins 30% au sein de son gouvernement provincial qui sera formé incessamment. Dans un mémorandum lu et lui remis mardi. Ces femmes ont manifesté leur indignation de constater qu'aucune femme n'a été nommée comme membre du cabinet du gouverneur au cours de ses derniers arrêtés. De son côté, Philippe Akamituna dit avoir pris acte de ce mémo et promet de prendre en compte les desiderata de ces femmes. Plus d'explications avec Irène Bomaluzolo qui a été témoin de cette activité de plaidoyer.
Le gouvernorat du Kwilu, communément appelé Maison Blanche à Bandundouville, a été assiégé mardi par plusieurs femmes dites leaders de la province du Kwilu. Dans leur mémorandum lu et remis au gouverneur des provinces, ces femmes plaident pour la représentativité de la femme au sein du gouvernement provincial et dans d'autres postes de prise de décision. Bernadette Kindumba est la représentante de ces femmes.
Au moment où vous vous engagez à mettre en place une équipe gouvernementale, il nous revient d'inventorier que nombreuses des femmes dans la province sont compétentes et capables d'assumer des postes de responsabilité, mais malheureusement ne sont pas prises en compte. Excellence, nous vous appelons à veiller à ce que les femmes soient équitablement représentées à plus ou moins 30% dans la composition du prochain gouvernement provincial du Kwilu.
Après avoir reçu ces mémos, Philippe Akamituna Ndolo, autorité provinciale du Kwilu, a réagi comme suit.
Bon, je crois que j'ai pris acte de votre mémo. Vous voulez seulement le respect du genre. Dans la formation du gouvernement, c'est une des conditions. Nous allons tenir compte.
Le gouverneur Philippe a encouragé les candidatures féminines à tous les niveaux, à chaque fois que les occasions se présentent. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Le gouvernement du Kwilu envahi par les femmes, le groupement Kolo en territoire de Mbazangongu, lui, est envahi par des papillons. Et cela dure depuis 3 jours. Ces papillons, dont ces habitants de cette contrée du Congo central, ignorent la nature, survolent leur environnement, butinent les plantes et pondent des œufs sur des plantations de cette région. Les habitants majoritairement agriculteurs, n'ayant jamais vécu ce phénomène, se demandent si dans l'avenir, ces papillons vont se métamorphoser à des chenilles comestibles ou dévastatrices. Face à cette incertitude et songeant que cette invasion pourrait affecter leur production, ces agriculteurs appellent les autorités compétentes à diligenter des enquêtes par des experts scientifiques et des chercheurs en colo pour éclairer utilement les paysans. Éclairage avec Nana Plurich Mambou.
D'après Victor Nzuzimbembe, un des notables du groupement de Nkolo en secteur de Boko, leur milieu est envahi par des milliers de papillons de nature inconnue. Ces papillons sont partout. En cas d'inattention, ils tombent dans les aliments pendant la cuisson. Ils sont aussi visibles dans les plantations où ils butinent et pondent les œufs. Quelles sont les chenilles que ces papillons vont donner? C'est l'une des questions qui se pose aux habitants de Nkolo, effrayés par cette apparition inédite. Victor Nzuzimbembe est l'un d'eux.
On se demande quelles seront les conséquences demain. Nous lançons un appel SOS auprès des autorités, auprès des experts, les entomologistes, pour nous dire ces millions de papillons vont pondre des œufs qui vont devenir des chenilles. Est-ce que c'est des chenilles comestibles? Est-ce que ces chenilles ne seront pas des chenilles qui vont ravager nos cultures, nos champs? Quelles sont les dispositions à prendre et c'est quel type de chenille? Nous voulons avoir des précisions parce que c'est des millions de papillons qu'on a et c'est vraiment extraordinaire. On n'a jamais vécu ce genre d'invasion.
Les paysans du groupement Kolo invitent les autorités à prendre des dispositions pour protéger les plantations pour que les chenilles destructrices issues de ces papillons n'attaquent pas les cultures. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le gouvernement a institué une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux différents examens scolaires. Elle permettra d'inculquer aux élèves des valeurs civiques et patriotiques selon le gouvernement ainsi que des réflexes d'autodéfense à travers une formation théorique et sportive.
L'invité.
La moitié de provinces de la RDC est actuellement touchée par l'épidémie de choléra. Ces données proviennent de l'atelier d'évaluation du plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra organisé par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement du 21 au 23 mai dernier dans la capitale. Prenant part à ces travaux, professeur Didier Bompangé, directeur adjoint de l'Institut One Health, pour l'Afrique spécialisée dans les épidémies de choléra préconise un renforcement du financement du plan multisectoriel de riposte afin de faire face à la flambée de cette épidémie à travers le pays. Il conseille également à la population d'observer les règles d'hygiène. Professeur Didier Bompangé s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda.
Professeur Didier Bompangé, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de participer à l'atelier d'évaluation du plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra 2023-2027. Quelles sont les différentes stratégies retenues?
En gros, deux stratégies ont fait l'objet des principales conclusions. La première, c'est l'élaboration d'une feuille de route pour accélérer l'implémentation de ce plan stratégique pour les trois dernières années, avec des activités consistant à renforcer les principaux axes stratégiques de ce plan. Puis la deuxième principale conclusion, c'est la mise en place d'un plan de riposte multisectoriel aux flambées épidémiques de choléra qui sont en train de déferler à travers le pays depuis la première semaine de cette année.
Le pays connaît une recrudescence des maladies hydriques, notamment les choléras. Quel état des lieux dressez-vous de cette maladie?
Depuis le début de l'année, près de 13 provinces sur les 26 que compte notre pays sont affectées par le choléra. Et au moment où nous parlons, 7 provinces sont en situation d'épidémie active. Et parmi elles, l'évolution de l'épidémie fait que aujourd'hui, même la ville de Kinshasa est affectée par des cas de choléra. Donc, pendant que nous parlons maintenant, certaines communes de Kinshasa sont en proie aux épidémies de choléra. Après la mise en place du plan multisectoriel d'élimination du choléra, on avait espéré améliorer la situation générale du choléra à travers les différentes zones de santé, en commençant par celles qui sont considérées par la cartographie du plan multisectoriel comme zones prioritaires. Malheureusement, plusieurs facteurs ont contribué à ne pas atteindre ces objectifs. Ici, je citerai principalement les conséquences du changement climatique avec la recrudescence des pluies torrentielles entraînant par-ci par-là des inondations, des glissements de terrain, avec comme conséquence également la détérioration des infrastructures en eau potable.
Que préconise alors l'Institut One Health pour l'Afrique pour renforcer la lutte notamment contre les choléras à travers les pays?
Il s'agit ici principalement de faire en sorte que le plan de riposte multisectoriel qui a été validé par les principaux participants à cet atelier soit activé, soit financé. Donc cette situation a amené les participants à l'atelier à l'élaboration d'un plan multisectoriel. Ce plan vient en appui au plan sectoriel qui avait été mis en place par le ministère de la Santé, mais cette fois-ci, on lui donne une dimension multisectorielle, c'est-à-dire qu'on va y apporter des réponses d'urgence qui ne sont pas uniquement des réponses médicales. Donc, ce plan de riposte multisectoriel a été budgétisé, transmis aux autorités, en espérant que les actions suivront. Mais nous n'avons aucun doute sur cela, puisque Son Excellence, le vice-premier ministre, ministre du plan, nous a promis personnellement qu'il allait prendre en main ce dossier à la fin de l'atelier. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, certainement, la riposte contre cette épidémie de choléra va prendre une nouvelle dimension à travers une approche multisectorielle pilotée par le ministère du Plan. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième, c'est que la feuille de route qui a été validée pour accélérer la mise en œuvre du plan multisectoriel, nous espérons que cette feuille de route à moyen terme donc recevra également les appuis nécessaires afin que en 2027, lorsqu'on évaluera le plan, on constate l'atteinte des objectifs.
Quelle est la part des responsabilités de la population dans cette lutte?
Toute lutte ne peut pas se gagner sans l'adhésion, la participation active des populations. Donc leur capacité à suivre les instructions, à respecter les règles qui sont édictées par les acteurs, leur capacité à anticiper les conséquences des mauvais comportements permettront de réduire les nombres de morts. Parce qu'aujourd'hui, avoir un comportement responsable en rapport avec tout ce qui est défécation, je pense que on va accélérer l'atteinte des objectifs pour l'extinction de ces épidémies.
Professeur Didier Bompangé, nous vous disons merci.
Merci également à vous.
Ah, je vous dis également merci, professeur Didier Bompangé, pour cet éclairage concernant le choléra en RDC. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout de votre fidélité. Merci également à Martin Sebouchango, Élisée Chikota et à Polydor Basunga. Bon après-midi à toutes et à tous.